16h-18h, ça va bien se passer avec Léo Potier.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Ça va bien se passer, sauf qu'aujourd'hui, on fait du spécial. Aujourd'hui, ce 17 octobre 2017 marque la 30e journée où l'on refuse la misère dans le monde, née de l'initiative du père Joseph Wresinski, fondateur de l'association ATD Garmonde. Alors vous vous dites, vous savez, la pauvreté c'est un truc qui nous concerne pas, détrompez-vous. En 2015, on estimait à 15% le pourcentage de la population belge vivant sous le seuil de pauvreté, étant entendu qu'un quelqu'un qui vit avec 1 074 € par mois tout seul, c'est déjà être sous le seuil de pauvreté. Bref, être pauvre aujourd'hui, c'est aussi faire l'impasse sur les loisirs, sur les sorties ciménées des enfants ou encore des vacances, pouvoir se nourrir uniquement. Bref, comme ça nous semblait un rendez-vous particulièrement important, nous sommes en direct depuis le Collège Saint-Michel à Bruxelles, où sont rassemblées une trentaine d'associations belges pompiers de la précarité. Alors poussez le son, car cette émission d'une heure vous est proposée par RCF, le réseau des radios chrétiennes francophones à Liège, Namur, Bastogne et Bruxelles. Mais on est aussi présent sur le 105.4 à Bruxelles, Radio Panique, sans qui rien n'est possible ce soir. Alors un grand merci à eux. Dans une heure, donc, démarrera ce grand forum d'associations organisé par ATD Carmonde. Et tous les quarts d'heure, nous aurons l'occasion d'accueillir les participants et participantes. On va commencer ce plateau avec nos trois invités et je me prie de m'excuser d'ailleurs pour le petit retard qui nous a été donné. Bonsoir à tous, bienvenue.
Bonsoir.
Bienvenue donc sur ce plateau. On a avec nous donc de la Strada, Cécile Van den Bosch, bonjour.
Bonjour.
Peters également du Front commun des SDF, ravi de vous accueillir.
Bonjour.
Et enfin les infirmiers de rue avec Koen Van den Broek, bonjour, bienvenue. Je vais peut-être laisser chacun d'entre vous présenter ce pourquoi vous êtes là et ce que vous défendez au travers de vos différentes organisations. Peut-être on va commencer par vous, Cécile.
Oui. Je représente aujourd'hui la Strada, qui est le centre d'appui au secteur bruxellois de l'aide aux sans-abri à Bruxelles. Alors, le secteur bruxellois de l'aide aux sans-abri, un secteur complexe. En général, au travers des médias, on l'illustre par le dispositif hivernal. Donc, pour beaucoup de gens, ce sont des lits dans des hangars, des distributions de repas dans des gares. Mais c'est bien plus que ça. Il faut savoir qu'il y a une soixantaine de services francophones et néerlandophones en région bruxelloise qui accueillent un énorme public suivant différentes optiques. Alors, il y a des hébergements d'urgence, des hébergements de crise, des maisons d'accueil qui font un hébergement plus long, parfois pour des familles, avec un accompagnement psychosocial. Il y a des services de jour. Il y a du travail de rue, comme infirmier de rue qui est ici à côté de nous. Et il y a également des nouvelles initiatives qui s'adressent à un public atteint de troubles de santé mentale et d'assuétude au travers du Housing First.
La maison d'abord, si je traduis.
Voilà, exactement. Et qui permet un accès direct de la rue au logement, qui donne de très bons résultats. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de pauvreté, on a souvent des clichés qui sont véhiculés par les médias. Mais le secteur de l'aide aux sans-abri à Bruxelles est vraiment très complexe et il correspond à une série de situations que les personnes rencontrent. Et la multiplicité de ces situations fait que les solutions à y apporter doivent être multiples également.
Je pense que ce n'est pas vous deux qui allez dire le contraire, Peters, Koen, pour les infirmiers de rue. On voit les petits pansements et les petits bobos, mais aussi les grandes pathologies qui peuvent être suivies dans la rue. Et ça, c'est ce qu'on fait à IDR quand on vous appelle infirmier de rue.
C'est-à-dire, oui, il y a un travail important de notre côté pour accompagner en fait les personnes sans-abri dans les rues, mais toujours avec la finalité d'essayer de les sortir au plus vite en fait, parce que c'est justement la rue qui est le lieu danger, qui est le plus dangereux en fait pour les personnes. Donc, on essaye quand même de les sortir au plus vite et de continuer par après avec l'accompagnement, parce que c'est ça aussi qui est très, très important, qu'il y a un accompagnement intensif et aussi long que nécessaire. Mais puis, il y a aussi un message d'autre côté qu'on estime que c'est possible et que ça doit être possible à Bruxelles de mettre fin au sans-abrisme, en fait, en globalité, comme problématique. Et que c'est juste une question de bonne volonté, en fait, de nous tous.
De volonté politique aussi.
De volonté aussi, politique aussi.
C'est la campagne 400 toits.
C'est la campagne 400 toits.
400 toits des associations bruxelloises, mais pas seulement d'ailleurs, puisque ça dépasse largement Bruxelles, qui sont dit, si on trouve 400 toits, 400 propriétaires qui sont prêts à donner et à mettre à disposition un logement, on peut sortir 400 personnes de la rue. C'est concret, c'est aujourd'hui.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça. Et pour vous, Peters, du Front commun des SDF.
Le Front commun des SDF, ça fait, disons, c'est presque 24-25 ans. En fait, c'est très pointu puisque c'est uniquement et strictement les droits des personnes qui n'ont plus de domicile. Il y a 24-25 ans, tous les sans-papiers étaient tous des Belges. Des Belges en résidence légale ou des étrangers en résidence légale en Belgique, mais le fait de ne pas avoir de domicile eh bien automatiquement il n'existait plus, donc absolument plus aucun droit, et c'est comme ça qu'il traînait dans la rue. Alors ça a été réglé grâce à l'adresse de référence au CPAS, mais alors ce que nous remarquons, et si on continue encore aujourd'hui, c'est parce que depuis 5 ou 6 ans, il y a de plus en plus de personnes âgées, des jeunes, ou bien même des adultes, des travailleurs, des chômeurs ou des pensionnés, qui provisoirement, avant d'arriver à la rue, sont hébergés chez des amis. Chez des amis ou dans leur famille. Mais alors, s'ils ne savent pas se domicilier là pour ne pas entrer dans le à composition de ménage, eh bien, automatiquement, ils n'ont plus aucun droit. Et donc, on continue ce combat-là, hein, au niveau de l'adresse de référence.
Et dans les parcours que vous voyez, tous les deux, que ce soit aux infirmiers de rue ou à la strada, c'est la même chose ?
Alors, la spécificité de la strada, c'est qu'elle a été fondée à l'initiative de la COCO, mais qu'elle ne travaille pas directement sur le terrain, mais elle est là en appui aux 60 structures de terrain. Je pense que les parcours qu'on remarque varient suivant le type de public qui est pris en charge. Donc le travail de rue est un public spécifique qui s'adresse aux personnes qui sont directement dans la rue. Ce que la Strada remarque, parce qu'elle réalise tous les deux ans un dénombrement des sans-abri en région bruxelloise, donc une tentative d'estimer le nombre de personnes sans logement ou en logement extrêmement précaire en région bruxelloise, c'est que le nombre de sans-abri augmente gravement. Que la situation n'est pas prise à bras-le-corps, que c'est corrélé à l'augmentation de la pauvreté et que c'est un problème structurel qui est en fait le reflet des politiques actuelles. Donc la question de l'accès aux droits sociaux est vraiment au centre du débat et de la soirée d'aujourd'hui.
Kuhn.
Je crois que ce qui est peut-être un peu différent chez nous, c'est que pour nous, notre groupe cible premier, ce sont des gens qui sont en principe déjà depuis longtemps en rue. Donc c'est une groupe assez spécifique. On l'a choisi justement pour démontrer que c'est possible de faire sortir ces gens-là de rue. On est arrivé plus ou moins à pouvoir sortir sur les 10 dernières années une centaine de personnes de la rue dans de ces catégories-là, qui est quand même assez importante, je pense, comme nombre. Et ce qu'on remarque à ce niveau-là, que ce qu'on pourrait appeler les cas les plus difficiles ou les plus graves, qu'il y a quand même une certaine diminution là-dedans. Donc il y a certainement beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent en rue, mais qui semblent avoir une autre une situation qui, à ce moment-ci encore, n'est pas tellement grave que...
Il serait
beaucoup
encore
cas
possible
qu'on a déjà,
d'empêcher en fait une aggravation d'un cas si on s'en donnait les moyens maintenant, sachant que la prévention est toujours meilleure que d'intervenir ensuite directement. Hein. C'est le fond du fond de la campagne. Jean.
Oui, justement, ici au niveau du front des sans-domicile, ça fait plus de 2 ans que nous travaillons, nous autres, sur quelles sont des mesures qui pourraient être prises au niveau des régions, au niveau du fédéral, au niveau communal, pour empêcher que les gens n'arrivent à la rue. On dépense des millions et des millions pour gérer les sans-domicile. Ça fait tourner l'économie, ça fait des salaires, ça fait des études qui coûtent terriblement cher. Mais essayer d'empêcher que les gens n'arrivent, c'est extrêmement... Et ça, au niveau du fédéral, on a commencé à travailler ça au niveau du fédéral. Mais selon les informations qu'on a, il va y avoir une conférence interministérielle sur la pauvreté en fin d'année. Et ce n'est pas sûr du tout qu'on aura des résultats et des choses très, très concrètes.
Ouais, c'est le flux de l'actualité. Je suis vraiment désolé de prendre simplement 10 minutes pour caresser simplement un sujet avec vous, mais je tenais surtout à vous mettre en avant ce début d'émission, parce qu'il va être vraiment le temps, malheureusement, de devoir séparer. Kuhn, Jean et Cécile, merci beaucoup.
Merci
d'avoir pris le temps pour nous. Je rappelle les sites internet respectifs. La Strada, c'est lastrada.bruxelles pour tous les renseignements. On connaît aussi vos dénombrements qui sont extrêmement utiles chaque jour et notamment pour les forces publiques. Front-sdf.be, évidemment, Jean, c'est là où on vous retrouve.
Oui.
Et les infirmiers de rue, c'est sur quel site ?
C'est infirmiersderue.org.
C'est très bien. Un grand merci à vous. Je vous souhaite bon courage également pour cette soirée. Vous êtes bien sur RCF, vous êtes aussi en même temps sur Radio Panique. C'est en direct du Collège Saint-Michel et c'est jusqu'à 18h. Entre-temps, c'est Diams aussi sur nos ondes.
Toma. bulles, le fond de teint sert à cacher les cocards. L'amour est arrivé trop tard, Cendrillon fait le trottoir dans ma bulle. Les baskets traînent sur le bitume, on a du mal à dire je t'aime car on n'a pas l'habitude. Dans ma bulle, si Vénus est victime d'adultère, bah Vénus prend un gun et deux filles à la tête. Dans ma bulle, le Uzi a remplacé les roses. Et par dépit, tu passes du bédo à l'héros. Dans ma bulle, c'est nos limites, c'est polémique. Les histoires de cul de la ferme ont remplacé Beverly Hills. Dans ma bulle, on fait tout en douce et en secrète. Et les jeunes fument et font l'amour dans des chambres d'hôtel. Des filles en manque de rêve couchent pour qu'on les aime. Des mecs en manque de respect poussent pour qu'on les craigne. Dans ma bulle, les filles adorent les mecs hardcore. Certaines jouent les femmes fortes car elles sortent avec un bad boy. Mais dans ma bulle, la réalité te rattrape. 6h du mat, les keufs frappent à ta porte et t'embarquent. Dans ma bulle, ton mec a pris 10 ans de placard. Ton amour c'est des mandats, du courrier, des parloirs. Dans ma bulle, la rue a poussé nos hommes. C'est pas qu'une question d'hormones, non, c'est une question d'or. Dans ma bulle, l'amour est en garde à vue. Non, y'a plus de love dans les rues de ma bulle. Des pères, elles rêvent tout en banlieue de vivre un jour place des ternes. Dans ma bulle, la politique a fait un bide. Ainsi, avec un nick, la police ont fait un hit. Dans ma bulle, y'a des sourires sous les capuches. Dans les coulisses, y'a des tas de putes. Ça baise, mais ça fait la prude. Dans ma bulle, l'amour, c'est pas la peine. Ça ken pour un sac Chanel, ça fait la belle pour un fontel. Dans ma bulle, je me sens seul, je me sens sali. On aime sans cœur, on aime ça quand ça sent le calibre. Dans ma bulle, y'a trop de filles malsaines. Certaines attendent leurs règles pour te faire croire qu'elles sont vierges. Dans ma bulle, y'a trop d'enfants du divorce. Trop de parents qui s'amochent et se menacent devant les gosses. Dans ma bulle, les hommes ont déserté le front, jeté l'éponge, pris le savon et ont fait rentrer les ronds. Dans ma bulle, le romantisme a pris une gifle. Les actrices de films X sont devenues des artistes. Dans ma bulle, on critique les femmes en jupe, mais t'as pas besoin de venir de la sup pour te faire traiter de pute. Dans ma bulle, ça parle cash, ça partage, ça parle mal, ça part au quart de tour, ça part au star. Dans ma bulle, l'amour est en garde à vue, non, y a plus de love dans les rues de ma bulle.
Diams sur les ondes de RCF et Radio Panique. Merci d'ailleurs de nous écouter. Je vous rappelle d'ailleurs si on fait un petit tour des fréquences. Et c'est ça qui est marrant d'ailleurs. Vous nous écoutez sur le réseau RCF à Bastogne sur le 105.4 et c'est exactement la même fréquence où vous nous écoutez à Bruxelles également sur le 105.4. Allez, type à belle la vie. Mais oui, nous sommes en direct du Collège Saint-Michel en cette journée mondiale du refus de la misère. Et comme on a pensé que c'était suffisamment important, bah pour en parler, on a une heure avec nous, avec des gens qui vont nous rejoindre tous les quarts d'heure. Et nouvelle bordée, nouveau quart d'heure. Je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue par chez nous. Bonjour, bonjour.
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 Salut Mathieu, ça va bien? Alors, qui avons-nous autour de la table? Nous avons donc Mathieu Tillon d'Habitat et Rénovation. On a Lilo représenté ici par Ariane Durix. Bonjour et bonsoir.
Bonjour.
Ariane. Et Réginald également de Wooningen 123, institution aussi. Ici. Mais on va prendre le temps aussi de vous présenter, de rappeler qu'est-ce que vous faites. Peut-être Réginald, on va commencer par vous.
Wooningen 123 logement existe depuis 14 ans. L'histoire a débuté avec l'occupation du Tagawa, pour ceux qui s'en souviennent, avenue Louise, pendant 3-4 ans.
À Bruxelles.
À Bruxelles. Et depuis 10 ans, nous occupons un lieu, le 123 rue Royale, un ancien ministère, 5500 m², 65 habitants, sous convention avec la région Wallonne. Et depuis, et cet immeuble vient d'être vendu. Donc nous allons recevoir un préavis dans le courant des prochains jours. Un préavis de 12 mois, ce qui est quand même pas mal, et pour reloger 65 personnes, ce ne sera pas trop. Et on a aussi une douzaine d'immeubles rue du Progrès avec Infrabel sous convention depuis 7 ans. Actuellement, là, on recherche activement des solutions pour reloger l'immeuble du 123, vu que il est vendu.
Vous allez devoir partir dans les prochains mois.
On doit partir et on déménage pas à la dernière minute.
Ce qui est sympa dans le projet de Wooningen aussi, c'est que, si j'ai bien compris, c'est en occupant un espace qui était vide de toute manière, de tout occupant, et qui était donc un lieu qui se perdait, on pouvait loger à la fois des personnes, mais on pouvait aussi le transformer en atelier et en stand pour pouvoir faire des choses utiles, réparer des vélos, avoir des ateliers culturels, etc. etc. Et ce, maintenant, depuis 10 ans. Vous aviez d'ailleurs compter, fait un décompte par exemple du nombre de personnes qui étaient passées par chez vous. Je lis 250 habitants permanents en fait au total. Vous avez fourni près de 12 000 nuitées à des personnes justement qui étaient de passage, des personnes, des gens qui vivaient en rue, etc. etc. La cantine, 15 000 assiettes et puis la friperie également. Bref, il y a énormément un petit microcosme qui gravite autour de Woningen et c'est ce que vous faites. Hein. Je vais aussi passer peut-être à Habitat Rénovation également, puis après on reparlera aussi de tout le monde. Mathieu, rebonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mathieu ?
Alors, donc, je travaille pour l'ASBL Habitat Rénovation en tant que travailleur social communautaire dans un projet de cohésion sociale qui est un dispositif qui met en place des travailleurs sociaux sur un site de logement social. Et donc, qui met ça en place, c'est la SLRB, Société de logement en région bruxelloise. C'est un organisme pararégional. Mais je ne suis pas engagé par la SLB, je suis engagé par Habitat Rénovation. Donc ça, c'est mon employeur. Et donc, c'est aussi un partenariat avec une CISP, une Société immobilière de services publics. Donc la CISP, ce sont les propriétaires qui gèrent les logements sociaux.
Ok. Mais concrètement, vous faites quoi, Habitat et Rénovation ?
Alors, Habitat Rénovation, ce n'est pas que les projets de cohésion sociale. Ça, c'est une partie. Donc, en fait, c'est une association d'insertion par le logement, l'habitat et l'environnement. Donc l'habitat, c'est le mode d'occupation de l'espace de l'homme à des fins de logement, évidemment. Et donc, voilà, c'est une association dont l'enjeu, c'est comment se réapproprier son logement ou comment le logement est perçu comme un enjeu fondamental pour émanciper le citoyen. Donc, il y a des conseils en rénovation. Les conseils en rénovation, c'est améliorer la qualité de l'habitat sur le territoire, surtout à XL et à Etterbeek, et c'est aussi des conseillers qui incitent à l'éco-rénovation. Il y a aussi une personne qui travaille en tant que développement local intégré, donc qui sensibilise les habitants aux gestes durables, économiques en énergie. Et nous avons aussi la table du logement, qui soutient aussi des locataires par un accueil, une aide personnalisée, et une agence immobilière sociale qui met à la disposition des locataires à faible revenu des logements à caractère social émanant du parc immobilier privé.
Moi, j'aime bien parce que vous êtes tous les deux sur la thématique du logement, ce qui va être l'occasion aussi de se pencher vers l'ILO avec vous, Ariane. C'est bien parce que vous portez en fait le logo ILO en fait, sur votre veste. Ça ne se voit pas à la radio, donc je me permets de le décrire. Sortir du sans-abrisme. Merci. Vous faites quoi à l'ILO d'ailleurs ?
Eh bien, on travaille à la fin du sans-abrisme.
Beau projet, on aime beaucoup. Dites-moi tout.
Oui, c'est une organisation qui est active à Bruxelles et en Wallonie, qui développe depuis plusieurs dizaines d'années une panoplie de services qui visent à accompagner les personnes sans-abri vers la sortie du sans-abrisme. Et ces services sont extrêmement variés parce qu'ils veulent répondre à la diversité des besoins des personnes. Alors ça va des services de première nécessité qu'on propose dans un centre de jour qui s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui vivent en rue et qui peuvent venir prendre une douche, manger un repas, bénéficier d'un service laverie, déposer leurs affaires dans une consigne qui leur appartient le temps qu'elles décident qu'elles restent près de nous. Ça va aussi sur la question de l'hébergement temporaire. On a plusieurs maisons d'accueil qui proposent des lits temporaires d'une durée de 3 à 9 mois durant lesquels on accompagne les personnes dans la globalité de leurs difficultés d'endettement, d'assuétude, de rupture familiale, etc. etc. Mais on a aussi développé beaucoup ces dernières années, et c'est là que je rejoins mes collègues de la table, des services et des projets autour de la question du logement. Le constat dans le secteur du sans-abrisme, c'est qu'il n'y a plus de portes de sortie au sans-abrisme. Il y a de plus en plus de portes d'entrée, malheureusement, puisque les politiques sociales se durcissent. On est rentré dans la fabrique des pauvres, on y était déjà pas mal
auparavant,
mais
ouais.
on durcit la situation encore. Et malheureusement, on ne parvient plus à en sortir parce que les logements, on le sait, c'est un problème pour beaucoup, beaucoup de personnes. Il ne faut pas être en situation de difficulté économique grave pour avoir un problème de logement aujourd'hui. Hein. La crise immobilière, on sait ce que c'est à Bruxelles. Quand on est sans abri, avec des revenus extrêmement faibles, voire pas de revenus, c'est encore plus compliqué. Et donc, on s'est dit que nous, on avait aussi notre part de colibri à faire et on a développé un service qui vise à créer des solutions de logement. Donc, on s'attaque à la question des inoccupés, par exemple, en développant des modules temporaires de logement qu'on place dans des bâtiments inoccupés.
On fait de l'insertion par le logement, on fait de la guidance à domicile pour stabiliser les personnes une fois qu'on les a remises en logement, etc., etc. Donc c'est extrêmement varié.
Vous avez eu l'occasion de bosser ensemble là, avec Réginald ou Mathieu, avec Lilo
Alors, que... pas encore, mais plus les projets avancent, plus les partenariats se multiplient.
Parce que nous, Radio Panique et RCF, on aime bien qu'on fasse, excusez-moi de le dire comme ça, mais des bébés dans les plateaux, c'est-à-dire vraiment des projets communs. Voilà.
On a déjà fait des soirées Radio Panique chez nous.
Ah bah très bien. Voilà. Ah, oui, effectivement. Mathieu.
Oui, bah peut-être que, évidemment, il y a plein de ponts et de liens à faire sur un site de logement. On voit aussi le phénomène du sans-abrisme qui se développe de plus en plus. On voit peut-être les effets aussi du parc maximilien qui.
Tout à fait.
Mais attention, je tiens à insister qu'on ne parle pas uniquement de Bruxelles aussi ici. Hein. On parle aussi de toute. Jusqu'à la Wallonie.
Oui,
hein. C'est pas un problème bruxellois uniquement. Hein.
Tout à fait.
Oui, bien sûr, le problème se décline dans d'autres grandes villes. C'est-à-dire que nous. On travaille surtout avec un public de locataires sociaux, pas exclusivement, c'est le locataire vivant dans son environnement, donc le site, mais visant aussi un site dans le centre-ville, et pas que le centre-ville, mais qui se développe dans une commune. Et donc on ne travaille pas directement avec le public des sans-abri. C'est possible évidemment de faire des ponts quand on voit des difficultés par rapport à des personnes qui sont en rue ou qui sont en demande, qui viennent dans notre local. On relaye alors directement vers des structures plus compétentes, travailleurs sociaux par exemple.
Ouais, c'est la course de relais. Hein.
Oui, on réoriente alors vers des personnes qui sont vraiment qui travaillent essentiellement avec ce public-là, on va dire.
Puis je crois qu'il faut aussi se rendre compte que si il y a de plus en plus d'initiatives et de projets autour de la question du logement, qui est en principe quand même une compétence typiquement dépendante des responsables politiques, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de réponses de ce côté-là et on s'est tous finalement transformés en, je ne vais pas dire un agent immobilier, mais quand même on fait du montage de projets immobiliers, c'est quand même étonnant, c'est l'associatif qui s'est
emparé ça. Parce qu'un 2-3 Wollingen, c'est exactement ça.
Exactement.
On entre dans un endroit et puis finalement on conventionne l'endroit pour être dans la légalité. Et c'est exactement ce que vous avez fait.
Mais parfois on rentre d'abord et on négocie après. Mais sinon on reçoit des coups de fil des CPS, est-ce que vous avez de la place? On reçoit des coups de fil de...
Si vous étiez vraiment une vraie agence en fait.
Mais non, pas du tout, mais c'est que... Il y a normalement 10% de logements sociaux qui sont souhaités dans les communes. Hein.
C'est la règle. C'est la théorie.
Mais on en est très très loin. Et alors les services sociaux des communes nous téléphonent pour savoir si... Donc j'ai des assistants sociaux de CPS qui nous téléphonent pour savoir si on ne peut pas accueillir des gens. Donc
Profiter de la démission de l'État pour se tourner vers des structures qui justement
C'est un peu dur comme constat aussi.
C'est un constat terrible.
Et en même temps, on criminalise le squat avec la loi du 5 octobre. Le fait même simplement de pénétrer dans un lieu sans l'accord du propriétaire est passible de peine pénale et d'un casier judiciaire. Donc ça rend compliqué un petit peu d'essayer de trouver des solutions avec les immeubles vides, parce que quel que l'immeuble soit occupé ou non, la peine est la même, quoi. Donc c'est un peu...
Voilà, alors je ne veux pas qu'on sépare sur une note d'ombre quand même. J'aimerais quand même que vous ouvriez quelque chose qui vous fait particulièrement plaisir dans ce que vous entreprenez, qui à votre sens en a justement du sens. Alilo.
Ce qui nous enthousiasme et nous motive au quotidien, c'est la détermination des travailleurs de terrain qui, malgré un travail extrêmement dur, parce qu'on est dans la quotidienneté de la misère, c'est extrêmement dur d'accompagner des personnes qui sont dans cet état de souffrance extrême. Malgré tout, la motivation reste intacte et... on dit parfois que ce sont des métiers de vocation. Je ne sais pas si ce sont des métiers de vocation. En tout cas, ce sont des métiers les gens militants, où l'humain est en permanence présent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous portera encore de nombreuses années, le moins longtemps possible, j'espère, puisque la fin du sans-abrisme, on espère qu'elle sera la plus proche possible.
Mathieu.
On part du principe que l'habitant n'est pas un con en fait, donc qu'il est tout aussi militant, il peut aussi tout à fait être politisé comme le travailleur social, donc on tend vraiment à avoir une relation très égalitaire avec les habitants, en disant qu'il est acteur de son propre quartier, c'est lui qui est l'expert de son quartier, donc c'est lui qui peut nous fournir les clés pour améliorer des besoins prioritaires qui ne sont pas satisfaits. Et donc nous, on est là pour proposer des actions sur base des demandes en fonction de besoins prioritaires, et donc nous faisons avec les gens, mais nous allons pas faire
contre eux.
Certainement pas contre eux,
et
c'est pas le travailleur qui va faire pour eux exactement. Voilà.
Réginald, j'imagine que vous allez peut-être aussi conclure sur votre situation et sur les besoins que vous avez.
Mais là, je sors d'un entretien avec un avocat d'un immeuble où on a...
Sympa.
Oui, je suis venu en vitesse jusqu'ici. Ça ne s'est pas très bien passé. On a découvert un groupe de 4 SDF qui occupait un très 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 bel immeuble. Ils nous ont contactés pour pouvoir voir si on peut... Nous, on s'insère entre le propriétaire et les occupants. Le propriétaire ne s'est pas montré du tout conciliant. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même encore 1,5 million de mètres carrés de bureaux vides. Et donc, il y a encore 15 à 30 000 logements vides. On va continuer à essayer de les prendre parce que on ne va pas rester dehors, quoi.
Voilà. Et 40 000 personnes en demande un logement social, donc évidemment, le besoin de construire des logements sociaux est criant.
25 000 ménages, c'est beaucoup plus que
25 000 personnes.
Oui, ménages, mais il faut savoir aussi qu'il y a des logements sociaux hyper vétustes. Ça aussi, c'est important de souligner.
Voilà. Et le mot de la fin.
Oui, je voudrais, si vous permettez, terminer vraiment sur une note quand même vraiment positive. C'est qu'on a dit tout à l'heure que le politique parfois était défaillant. Quand les politiques sociales se durcissent, moi, ce que je salue, c'est la capacité des citoyens à se mobiliser pour pouvoir effectivement trouver des solutions là où on ne les attendait plus. Aujourd'hui, on le voit sur des initiatives comme le parc Maximilien, où effectivement des particuliers bruxellois acceptent d'accueillir chez eux des personnes réfugiées. On le voit dans plein d'autres projets. Les projets qu'on monte, il y a des donateurs qui se mobilisent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça porte positif. Nos associations.
Oui, eux aussi, ils disent non à la misère. Et
exactement.
S'il y a un donateur
qui
nous
écoute,
s'il y a un propriétaire d'immeuble, on est vraiment...
Prenons. Où est-ce qu'on vous retrouve à Wooningen? Sur quel site internet?
On demande à Google 123 logements.
Ou un autre, on n'a pas d'action chez eux.
Pardon.
DuckDuckGo aussi marche bien.
C'est 123 rue Royale.be.
Ok, pour Habitat et Rénovation.
Habitat-rénovation.be.
Oh, c'est génial. Et c'est Lilo.be.
Lilo.be, tout simplement.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. Merci encore à tous les trois. Je vous souhaite bon courage. Et puis j'invite également à tous ceux qui seront de passage du côté du Collège Saint-Michel à partir de 18h jusqu'à 20h de venir vous voir. C'est encore mieux. Belle soirée. Bon courage et
merci.
On pense aussi à vous à Wooningen.
Merci.
Vous êtes bien sur RCF, on adore ce qu'on fait et notamment cette journée du refus de la misère. Vous restez bien avec nous car le temps de conclure, on est ensemble jusqu'à 18h et surtout on est ensemble avec Danakil, un petit Marley. C'est parti.
Modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine, il venait d'Angleterre. Cette terre n'est pas la mienne, mais ma passion n'est pas là. Bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui attend fait pour moi. Où je vais, je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur, qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal, je crains pour mes frères et sœurs. Je voudrais le bien, mais le mal fait son beurre. Moi, je veux jouer de la voix et devenir chanteur, générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, je bosse, j'avance avec bravoure. Avec des potes, je sors mon premier 45 tours. Que la force soit avec moi, le chemin sans détour. Le peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. J'ai grandi dans mon ghetto modeste, mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco, je la fuis comme la peste. Mon son c'est le roots que je balance même à la messe. Quelques galères, mais les morceaux s'enchaînent. Dans mon pays, les producteurs véreux se déchaînent. C'est les miettes que je ramasse, même si ça me fait de la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Sinon, j'adore le football. Depuis petit, je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle et je la traîne où que j'aille. La weed me fait du bien et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte percer. Les échecs, je les essuie, la légende est amorcée. J'ai 30 ans.
chansons résonnent. Le monde connaît mon nom et les chiens montent à la bonne. Mais foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant, maintenant appelez-moi Bob. Je suis une star, mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retourner ma veste. Enfant du peuple, je suis né, je le reste. Je n'ai jamais subi l'influence des terres de l'Ouest. J'aime les femmes qui m'accompagnent, inspirent mon écriture. J'accorde la douceur des mots avec la force des écritures.
À l'instant, Marley Danakil, vous êtes bien sur les ondes, sur plusieurs ondes, hein, puisqu'on a à la fois un petit peu de Radio Panique 105.4 à Bruxelles, et puis sinon sur tout le réseau des radios chrétiennes francophones partout en Belgique francophone. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 18h. Dans Ça va bien se passer, on est en direct du Collège Saint-Michel, car c'est la 30e journée mondiale du refus de la misère. Et donc du coup, comme ça nous semblait important, on voulait faire quelque chose. À chaque quart d'heure, de nouvelles personnes. Ravi de vous accueillir, Sandrine et Florent. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre plateau. Je vais vous laisser présenter vous, respectivement les associations, collectifs et autres que vous représentez. Je vais peut-être commencer par vous, Sandrine. C'est quoi le Pivot ?
Le Pivot, c'est un lieu où se rassemblent des familles qui vivent de grandes difficultés, la précarité. Elles se rassemblent pour mener des projets ensemble, des projets pour retrouver, se remettre debout, retrouver la dignité, croire en leur capacité, en leur force.
Le Pivot, votre slogan, c'est de la misère à la dignité. Je ne sais plus, dites-moi, c'était quoi ?
Oui, de la misère à la dignité, debout pour la dignité.
Debout pour la dignité, tout à fait. C'est aussi assez emblématique, puisque c'est 1971, si je crois, votre date de fondation au Pivot.
Voilà,
ouais, c'est ça.
On existe depuis 45 ans.
Qu'est-ce qui avait motivé sa création à la base ?
À la base, c'est un homme, Henri Clark, qui est arrivé dans le quartier, qui avait une sensibilité, parce qu'il était passé par ATD Quart Monde, il avait une sensibilité à vivre avec des familles qui vivaient la grande pauvreté. Il a commencé par des bibliothèques de rue, puis peu à peu, des activités pour adultes se sont mises en place aussi. Toujours en partant de la force des gens. On veut être vraiment le miroir de la force des gens et leur renvoyer leur force.
Et votre juridiction géographique, entre guillemets, vous êtes où ? On vous retrouve où ?
Ixelles et Teurbeek.
Ixelles et Teurbeek.
Principalement.
Vous êtes bruxello-bruxellois, en fait. Hein,
On est bruxello-bruxellois, depuis 40 ans, il y a pas mal de familles qui sont venues au Pivot et qui ont déménagé en dehors de Bruxelles.
Bien sûr.
Et on garde un lien avec elles. Par deux moyens, on va leur rendre visite, et par le journal, qui est un trimestriel, un journal qui est fait par une équipe qu'on appelle les journalistes, qui sont eux-mêmes issus du milieu de la grande pauvreté, et qu'on forme au journalisme, donc interviews, images, photos, mises en page, maquettes, jusqu'à un produit fini qui est un journal trimestriel.
Excellent. Bon, moi, j'adore les journalistes, hein. C'est pas parce que j'en suis un, mais
voilà.
De manière générale, excellent, excellent. Florent, on va parler ensemble de quelque chose qui fait l'électricité et qui est à l'international. Ça s'appelle Dynamo International. Si je me reporte en fait à ma fiche, création en 2001, c'est quoi son projet, c'est quoi son objet à Dynamo ?
Alors Dynamo, c'est une association qui d'accompagnement, donc d'aide à la jeunesse. Et notre plus gros outil, donc c'est la mobilité. Donc à travers des projets de mobilité à court terme ou à long terme, on peut proposer à des jeunes qui n'ont pas forcément l'information, pas forcément la possibilité en temps normal ou quoi que ce soit de pouvoir participer à des projets de mobilité donc en Europe voire dans le monde. Mais voilà, donc du coup c'est vraiment on les aide dans leur démarche de demande, ça peut être de bourse ou alors avec nos partenaires européens. On effectue des échanges de jeunes ou tout ça. Mais à côté de ça, on garde ensuite contact avec eux par le biais d'activités qui sont fréquemment faites au sein de Dynamo pour continuer à avoir contact avec eux, qui rencontrent d'autres jeunes et qu'on ait tout ça et qu'il y ait toujours une bonne dynamique.
Donc le plus important, c'est d'ouvrir des fenêtres, des possibilités en plus, que ce soit dans des familles qui vont venir fréquenter le Pivot ou que ce soit des jeunes qui viennent voir Dynamo International.
Voilà, donc nous on travaille essentiellement sur base de volontariat, donc c'est-à-dire que notre porte est ouverte à tous, mais voilà, à un public jeune, donc de 13 à 25 ans. Chaque jeune qui a alors, soit de curiosité de pousser la porte et de prendre des informations et qu'on ne reverra plus par la suite, voilà, ou alors finalement des fois ils vont revenir. Que ce soit 3 mois, 6 mois à prendre, disant ça y est, j'ai du temps maintenant et je veux vraiment réaliser un projet, j'ai envie d'aller apprendre l'anglais en Angleterre pendant 3 mois, mais comment je dois m'y prendre ? On est là pour ça, on est là pour l'aider, l'accompagner et voir avec lui ce qui va être possible de faire.
Parce qu'on est quand même dans la 30e journée mondiale du refus de la misère, est-ce que ce sont des jeunes qui, si jamais ils n'étaient pas venus vous voir, auraient jamais eu les moyens ou même la chance de pouvoir, pouvoir avoir un coup de pouce pour partir?
C'est ça. Alors, ils n'ont pas forcément les informations. Aujourd'hui, c'est ça qui est très difficile de l'avoir, c'est des informations. Donc, si on n'est pas dans les bons milieux, dans les bons cercles, ouais, on n'a pas l'information. Et c'est fichu, on passe à côté d'une chance.
C'est que les moyens existent, mais l'information pour informer les gens qu'il existe des bourses, il existe des dossiers à remplir, ça, forcément, ça ne circule
c'est
pas
ça.
Forcément.
Si on n'est pas dans les bons cercles, c'est fichu, on peut passer à côté. Donc, nous, on est là pour répandre au maximum cette information par le biais de toutes les associations qui sont soit à Bruxelles, soit en Wallonie, parce qu'on a aussi une antenne à Namur. Donc, on fait du travail sur toute la Wallonie aussi. Et donc, voilà, c'est de répandre le plus d'informations pour dire c'est possible, tu peux y avoir droit et prends-le ce droit parce que voilà.
Ce serait quand même bête de passer à côté. Sandrine, pour vous, dans les personnes qui viennent vous voir, dans les familles, vous avez dit que c'était principalement deux communes de Bruxelles, mais après on circule, on est mobile, la mobilité toujours avec Denis Hamot d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces familles d'ailleurs que vous accompagnez ensuite? Est-ce que vous faites un petit suivi?
Mais c'est-à-dire, ce qu'elles deviennent, c'est pas tellement notre sujet, entre guillemets, dans le sens où, en fait, c'est souvent une histoire à long terme avec elle. Donc on connaît parfois les grands-parents, les arrière-grands-parents et puis les petits-enfants. Donc voilà, ce sont des familles qui ont connu le pivot à un moment de leur vie, des nouvelles familles qui arrivent et qui viennent parce qu'elles savent qu'elles peuvent trouver au pivot un endroit où elles peuvent se rassembler sans craindre la honte, sans avoir peur de parler, de s'exprimer, parce qu'elles sont ensemble et qu'elles ont le même vécu, elles partagent le même vécu. Donc ça, c'est très important de se rassembler et de pouvoir ensemble se dire, voilà, comment on s'en sort, qu'est-ce que je mets en place, comment je résiste à cette misère qui est écrasante. Alors, entre autres, un des outils pour nous, c'est la créativité et l'imagination. Puisque vous parliez de culture tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
C'est que on croit très fort à la création collective pour sortir ensemble de ces problèmes, de ces peurs. Voilà. Et donc, c'est une force pour lutter contre une réalité qui n'est pas toujours facile, cette créativité. Et donc, on mène des projets, soit par les contrats de quartier, des projets dans la cité, soit des projets au pivot même, et on fait des expositions, des œuvres des gens. C'est toujours accompagné de leurs paroles.
C'est là que je vous posais la question, parce que dans le projet fondateur de Joseph Rezinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, c'était l'un des premiers à dire que la culture n'était pas un luxe, que lorsqu'on est en situation de précarité, un, on échappe à l'information, et deux, on se met en dehors de la culture, ce qui fait qu'on est mis à part. Est-ce que vous diriez, vous Sandrine, qu'aujourd'hui, dire qu'un public en précarité, la culture, c'est pas une priorité, est-ce que ça vous va comme affirmation? Ou alors est-ce que vous dites, non, il faut de la culture pour tous, hein?
Il faut de la culture pour tous parce que c'est un moyen de résister, donc d'exister. C'est un moyen aussi d'exister en créant. C'est un moyen aussi de créer du beau. Et dans des vies qui ne sont pas faciles, être capable de beauté, c'est un point très très important et dont les familles nous renvoient en permanence. Donc voilà, non, pour nous, la culture est essentielle et fait partie de cette résistance à la misère.
J'imagine peut-être pour vous à Dynamo que les projets de mobilité que vous proposez ne sont pas forcément liés au domaine culturel ou on trouve d'autres choses
hein? Alors ça dépend.
Florent.
Ça dépend. En fait, comme je disais, il y a plusieurs types de projets et on a vraiment des projets qui sont des projets lancés par nos partenaires en Europe qui sont des échanges de jeunes qui sont vraiment du court terme. Donc c'est une semaine à 21 jours maxi. Et donc là, c'est vraiment un groupe de jeunes qui va partir et rencontrer d'autres jeunes européens sur une période donnée. Et il y aura une thématique qui sera donnée par l'association. Et donc voilà. Donc cette thématique peut être autant culturelle que sportive. Que bien, on va réfléchir sur tel concept ou juste se dire on va réfléchir sur d'autres moyens d'exister et d'autres moyens de s'affirmer que les moyens monétaires aujourd'hui, comment on peut passer à travers, comment on peut faire autre chose et différemment, Et donc du coup, ça permet aussi de rencontrer d'autres jeunes européens qui ont peut-être d'autres idées, d'autres alternatives. Et donc voilà. Donc ça peut tourner autour du culturel, comme ça peut tourner sur plein d'autres domaines aussi.
Est-ce que vous avez vu la promotion qui est faite actuellement du Corps européen de solidarité, qui permet en fait à des jeunes européens partout en Europe de partir et d'être financés au travers d'une bourse pour des périodes de 2 mois à 1 an à l'étranger pour travailler sur un projet de solidarité par exemple. On cite souvent ce qui se passe à Norcia, en Hongrie, en Italie, 1 an après le tremblement de terre, eh bien, des jeunes tchèques, belges, français et même de toute l'Europe vont là-bas en tant que membres du Corps européen de solidarité pour pouvoir aider. On n'en parle pas beaucoup, mais à l'horizon 2020, la Commission européenne espère en envoyer 100 000 de ces jeunes. Peut-être une nouvelle corde ajoutée à votre arc dans vos solutions de mobilité à Dynamo International. Mais je n'ai pas d'action dans l'Union européenne, même si j'y vis, hein, évidemment, on est tout à fait d'accord. Un mot de la fin avant de se séparer, chers invités. Où est-ce qu'on vous retrouve? De quoi avez-vous besoin en ce moment? Le pivot avec vous, Sandrine, dites-moi.
Besoin, il n'y a pas vraiment de besoin. Ce qu'on espère, c'est un changement du regard. Un changement du regard des très pauvres sur, par rapport à leur capacité, à leur force, à tout ce qu'ils mettent en place. Et un changement de regard du reste des personnes qui s'en sortent mieux, entre guillemets, et qui ont parfois un regard négatif et ne voient pas tout ce que ces personnes qui vivent la misère mettront en œuvre pour résister chaque jour.
Ouais, effectivement, changement de regard, et ça passe, quand on dit refus de la misère, c'est pas le refus des personnes qui vivent dans la misère,
voilà.
C'est la situation dans laquelle on les a placées, et ce qui est très différent comme manière de penser, et je vous remercie d'ailleurs de le rappeler. Pour vous, Florent?
Ça va être comme Sandrine, je veux dire, on a besoin de rien, mais il faut surtout pas lâcher, lâcher toutes les actions qui sont mises en place. Aujourd'hui, on le voit très bien, le nombre d'associations qui sont présentes, ça fait vraiment plaisir. C'est des associations qui sont là et qui ont une lutte, et cette lutte, il ne faut pas la lâcher. Et donc voilà, il faut vraiment continuer dans ce combat-là. Et c'est le refus de la misère, le refus des inégalités, et toujours continuer parce que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc voilà.
En espérant quand même que ça aille en s'arrangeant, évidemment. Par rapport aux autres invités également qui se sont succédés à ce micro-là, c'est tout à fait le cas. On vous retrouve où? Où est-ce qu'on veut? Si jamais on veut s'enseigner sur le pivot et Dynamo, où sont vos sites internet? Dites-moi, Sandrine.
Tout simplement www.lepivot.be.
Lepivot.be et Dynamo?
Dynamo, page Facebook beaucoup plus active, donc Dynamo International Mobilité. Et sinon, on est à la rue de Staël, à Uccle. Et il y a une autre antenne à Namur.
Pour les personnes qui vivent à Namur et qui vivent à Bruxelles, je vous remercie en tout cas, Sandrine et Florent. Je vous souhaite bon courage également pour cette grande soirée qui s'ouvre, car c'est aussi un peu votre moment à vous également. Hein. Et je vous souhaite d'en profiter. Vous êtes bien sur Radio Panique et en même temps, vous êtes bien sur RCF. On est ensemble jusqu'à 18h. On va prendre du temps pour parler un petit peu organisation, puisqu'à partir de 18h, c'est là que démarra cette grande soirée qu'on vous propose. Ça sera juste après un petit instant de musique. Je vous ai choisi du merveilleux. Diana Reeves, c'est Dreams. Dreams, oui, car on est là pour rêver. On est là pour rêver à un monde où on n'aura pas forcément besoin, depuis 30 ans maintenant, de faire une journée mondiale qui s'appelle la journée mondiale du refus de la misère, qui a été voulue d'ailleurs par un certain Joseph Brzezinski, le fondateur d'ATD Carmonde. Alors si vous prend l'envie par exemple de passer du côté du collège Saint-Michel à Bruxelles ce soir, d'ailleurs à partir de 18h, c'est dans quelques instants, n'hésitez pas car il y a plein de monde, il y a une trentaine d'associations qui se réunissent et on les a entendues d'ailleurs à notre micro sur ce qu'elles font et on aimerait dresser un petit peu le portrait de cette soirée en compagnie de celui, je vais pas dire par qui tout est arrivé, mais en tout cas celui qui en fait le plus la promotion, Antoine Scalier, bonsoir.
Bonsoir Léo.
Juste avant de démarrer 18h, merci de prendre quelques minutes avec nous. Donc responsable de la com d'ATD Carmonde en Belgique.
Voilà.
Le vœu que vous avez fait pour cette journée particulière, ce 17 octobre 2017, c'est de réunir 30 associations, une trentaine. On n'est pas là pour compter évidemment. Les présenter, de mettre en valeur ce qu'elles font. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir au Collège Saint-Michel?
Donc voilà, déjà dans une première partie de 18h à 19h30, c'est vraiment les associations qui font la soirée avec leurs différentes associations, avec leurs différents stands, donc animations, ateliers. Il y a différentes associations qui ont plutôt préparé un truc ludique pour permettre aux gens, je pense, d'entrer dans des questionnements qu'on a quand on vit la pauvreté, donc plutôt quelque chose de l'ordre de la sensibilité et de la sensibilisation. Et il y a des associations plutôt qui font des buffets. Je crois qu'il y a Rencontre des Continents et Collecte Active qui font des buffets aussi, et c'est leur manière à eux en fait de faire une animation. À 19h30, tout le monde rentre dans le Théâtre Saint-Michel. Voilà, ça c'est le moment central. On va commencer sur 15 minutes de témoignage. C'est en fait le moment le plus important presque, sans vouloir forcément mettre une hiérarchie, parce que dans la charte en fait et dans l'ADN de la Journée mondiale du feu de la misère, il faut que des personnes vivant la pauvreté prennent la parole. C'est elles qui doivent être les premières mises en avant. Et donc on va commencer par des témoignages de personnes dont la plupart sont militants de Carmonde. Ensuite on a 30 minutes de spectacle avec les jeunes de LST, Lutte Solidarité Travail, qui ont du spectacle de théâtre action vraiment génial. Ensuite c'est 30 minutes de concert de rap avec les jeunes de Betonjeugd, qui est aussi une organisation de jeunesse vraiment super chouette, qui est aussi pas mal de jeunes qui sont en galère, qui se posent des questions, et puis après qui prennent la scène et le micro pour faire un gros spectacle. Et puis on finit avec l'invité spécial Benjamin Grand-Georges, qui est pas seulement pour nous un chouette artiste qui vient chanter, mais aussi un allié, un ami de la Télé-Carmonde, très engagé. Il est engagé dans le groupe local à Etterbe, qui est... Donc voilà, ça a beaucoup de sens de le voir ce soir pour nous.
J'aime bien l'idée en fait que ce moment que vous allez proposer là, c'est aussi un moment pour ceux qui sont un peu les pompiers de la précarité en Belgique. L'idée n'est pas de les mettre en avant avant tout, mais il faut quand même les remercier pour le boulot qu'ils font et les mettre en valeur pour ça.
Je pense bien, mais même en fait, je pense avant de les remercier, parfois il faut juste déjà les connaître.
Quand
quelqu'un s'intéresse à ce genre de problématique, souvent on découvre une assoce puis une autre, puis on se dit tiens, mais c'est marrant, ça fourmille en fait dans ce milieu-là. Et de fait, ça fourmille, il y a tout un réseau qui s'organise, qui parfois s'organise aussi pour faire ce que l'État ne fait pas. C'est aussi un peu malheureux, c'est toujours un peu le questionnement incitif, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le job de l'État. Et donc, c'est pas seulement dire merci, mais aussi se rendre compte. De leur réalité tous les jours.
Ouais, que ça existe, de leurs besoins et autres. Et ils étaient là, à notre micro d'ailleurs, Pour le dire, il faut que je vous remercie personnellement d'ailleurs Antoine d'avoir savoir su nous aiguiller et faire un choix difficile d'ailleurs parmi toutes ces assos qui sont venues à notre micro ce soir, et soyez-en remerciés beaucoup. Je vous souhaite un bon courage d'ailleurs pour cette soirée qui commence d'ailleurs pour vous.
Un tout grand merci.
Et de prendre du temps aussi pour nous, ça nous est particulièrement précieux. Un grand merci et à très bientôt. Ouais, voilà, merci. Ça commence dans quelques instants à partir de 18h, le moment proposé par ATD commence. Vous êtes tous invités à venir y participer si vous prévoyez de passer à Bruxelles, c'est au Collège Saint-Michel. La soirée continue aussi sur Radio Panique, puisqu'à partir de 19h, émission spéciale chez les paniquiens, paniquiennes, et ce sera toujours au Collège Saint-Michel. Et puis entre-temps, à 18h, c'est Djiboutique que vous retrouvez à Bruxelles sur le 105.4 FM. Pour tous ceux et toutes celles qui écoutent RCF, à 18h, c'est l'heure des infos. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre fidélité. Un gros merci d'ailleurs à Radio Panique, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Arthur derrière la technique. Et puis un grand merci à Sébastien Kessel et à toute l'équipe technique de Liège, sans qui nous n'aurions pas pu prendre l'antenne ce soir. Merci les gars. Merci pour votre fidélité. Puis n'oubliez pas que le refus de la misère, c'est tous les jours d'une année, et pas simplement le 17 octobre. Soyez forts, à très bientôt.